7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Olivier Poujade, bonjour et bonsoir même.
Bonsoir Nicolas.
Nous partons tout de suite, Olivier, pour l'Irak, la ville de Mossoul.
Où se prépare la deuxième partie de l'offensive pour franchir la rivière Tigre depuis le 17 octobre, Nicolas. Les forces irakiennes tentent de reprendre les unes après les autres les habitations de Mossoul des mains de l'organisation État islamique. Une guerre urbaine pleine de pièges, une progression lente. Il y a quelques semaines, le chef de l'État, François Hollande, parlait d'une reprise totale de Mossoul avant l'été. Nous allons faire ce soir un point de situation avec notre envoyé spécial. Bonsoir Omar Waman.
Bonsoir Olivier.
Omar, vous êtes entré dans Mossoul il y a 48 heures. Est-ce que l'on entre facilement dans cette ville aujourd'hui et dans quel état est cette ville ?
Alors pour aller à Mossoul, il faut passer par Erbil. Hein. Erbil, c'est la capitale du Kurdistan irakien. 80 km à peine séparent les deux villes. Il faut évidemment une autorisation délivrée par les autorités kurdes pour sortir du Kurdistan et entrer dans la province de Ninive, débarrassée de Daesh et dont le chef-lieu est Mossoul. S'en suivent 80 km jalonnés de barrages, d'abord tenus par les forces kurdes, puis par l'armée irakienne, avant d'arriver dans la partie est de Mossoul où survivent plusieurs centaines de milliers d'habitants dans des conditions extrêmement précaires, entre pénurie d'eau, d'électricité, de vivres, et dans un décor, il faut le dire, le plus souvent apocalyptique. Les routes sont défoncées, les ponts ont été littéralement anéantis par les frappes aériennes, les maisons le plus souvent en ruine après 3 mois de combat. Et la population, eh bien, elle respire et semble vivre dans une apparente normalité, malgré les obus tirés depuis la partie ouest de la ville, toujours tenus par les djihadistes de Daesh.
Omar, les observateurs parlent ici d'un affaiblissement de l'organisation État islamique. Est-ce que c'est le cas à Mossoul ? Les troupes irakiennes ont-elles le contrôle de la situation ?
Oui, indéniablement, Daesh est en position de faiblesse, encerclé dans cette partie ouest de Mossoul. Le fleuve, le Tigre, sert de frontière naturelle entre les deux rives, une frontière surveillée de très très près par l'armée irakienne qui craint des infiltrations. Aujourd'hui, Daesh en est réduit à tirer des obus à l'aveuglette et à lancer des drones, ces drones piégés qui font beaucoup de mal aux forces gouvernementales et à la population, les forces gouvernementales qui répliquent en bombardant leur position. Cet après-midi, j'ai vu passer un convoi de l'armée irakienne composé de ponts flottants, car il faut savoir que les 5 ponts qui permettaient de relier les deux parties de la ville ont été détruits, ce qui signifie que ces ponts flottants vont bientôt servir. L'armée irakienne et ses alliés se préparent à lancer l'assaut final.
Est-ce que l'on connaît le profil des djihadistes qui résistent aujourd'hui ? Y a-t-il encore une chaîne de commandement ou ce sont de simples combattants isolés de l'autre côté de la rivière ?
Alors ce que l'on sait, c'est qu'ils sont pris au piège, hein, et qu'ils se battront jusqu'à la mort. Hein. Ils sont plusieurs milliers, bien équipés. Il ne faut pas oublier qu'ils ont récupéré les moyens de plusieurs divisions lors de la prise de Mossoul il y a bientôt 2 ans et demi. Il y a des centaines de djihadistes étrangers, dont de très nombreux Français. Ils n'ont pas d'autre choix que de se battre, car les forces irakiennes seront sans pitié. Il faut savoir également que de nombreux cadres de Daesh ont fui Mossoul au début de la bataille en direction de Raqqa, en Syrie, autre bastion djihadiste. Ils ont fui avec armes, famille, bagages, laissant derrière eux des combattants parfois très jeunes, mais aguerris, déterminés. Ils ont été encouragés par Abou Bakr al-Baghdadi, le chef du groupe État islamique, qui les a appelés à défendre la ville, Baghdadi, qui aurait été repérée et localisée en Irak, selon le Premier ministre irakien Haider al-Abadi, qui vient de faire cette déclaration, Haider al-Abadi, qui explique que le mouvement du chef de Daesh serait très limité.
Dernière question, Omar, on parlait au début de cette offensive de Mossoul d'une coalition contre nature pour affronter l'organisation État islamique. Est-ce que la coopération entre les milices sunnites, les Kurdes et l'armée irakienne fonctionne finalement ?
Oui, elle fonctionne jusqu'à maintenant. Les Kurdes qui ont participé à la libération des villages autour de Mossoul, eh bien, ils se sont arrêtés aux portes de la ville, laissant le soin à l'armée irakienne et aux milices chiites, hein, qui sont venues du sud de l'Irak. Eh bien, c'est l'armée irakienne et ses milices chiites qui sont entrées pour la libérer, avec effectivement des miliciens sunnites qui sont minoritaires. La collaboration entre les différentes composantes a surtout été efficace dans l'encerclement de Mossoul. Toutes les lignes d'approvisionnement ont été coupées, ces lignes de Daesh. Et les djihadistes sont désormais totalement assiégés. Mais le plus dur reste à venir. Une fois la ville de Mossoul libérée, certains parlent de 2, 3, 4 mois, eh bien les milices chiites détestées par la population Que font-elles? Vont-elles rester au milieu de cette population qui les déteste littéralement? Quid des tribus sunnites qui jouent un rôle important, notamment sur le plan du renseignement? Et puis, il y a l'équation kurde. Les Kurdes qui ont gagné du terrain, du territoire, et qui voudront le monnayer en échange de plus d'autonomie, voire d'une indépendance que les Kurdes, dans leur majorité, réclament depuis longtemps.
Merci à vous, Omar Waman, envoyé spécial de France Inter, donc en direct de Mossoul.
La situation en Irak, Olivier, indissociable évidemment du drame syrien.
Oui, vous avez bien sûr entendu parler, Nicolas, du dernier rapport d'Amnesty International sur la prison syrienne de Sednaïa, où en l'espace de 3 ans, près de 13 000 citoyens syriens ont été pendus à la suite de procès expéditifs quelques mois après l'opération César, révélant les tortures commises dans les prisons secrètes de Damas. Les preuves s'accumulent contre Bachar al-Assad, preuve accablante d'après Stephen Rapp, l'ancien ambassadeur américain pour les accusations de crimes contre l'humanité. Il était interrogé sur CNN hier par Christian Amanpour.
Ces crimes sont commis au sein du système de sécurité intérieure syrien, sous le commandement du président. Et les preuves dont nous disposons sont massives et accablantes. Très honnêtement, elles sont encore plus évidentes que celles présentées à Nuremberg, à La Haye, devant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, en Sierra Leone avec Charles Taylor, et même à Arusha, dans le procès pour génocide contre les anciens dirigeants rwandais. C'est le genre de preuve irréfutable qui certainement pourrait donner lieu à un procès si nous pouvions l'organiser à un niveau international.
Et direction maintenant le Brésil, Olivier, pour évoquer la déchéance de l'ancien Golden Boy brésilien.
7e fortune mondiale en 2012, l'ancien milliardaire n'avait alors qu'une obsession, devenir l'homme le plus riche du monde. Ike Batista, Nicolas, est aujourd'hui au fond de sa cellule, coupable d'avoir échafaudé un vaste réseau de corruption, avec notamment 16,5 millions de dollars de pots de vin à destination d'un seul homme, Sergio Cabral, ancien gouverneur de Rio, lui aussi en prison depuis novembre dernier. Anne Vigna, bonjour.
Bonjour Olivier.
Correspondante de Radio France au Brésil. Alors Anne, on rappelle que ces deux hommes, Cabral et Batista, incarnaient il y a encore 2 ans un état de Rio riche, prospère, celui des Jeux Olympiques. Et finalement, on se rend compte que nos deux champions ont totalement vidé les caisses.
Oui, absolument Olivier. L'homme d'affaires Ike Batista est très connu ici. Hein. C'est une sorte de flambeur arrogant. Sourire à la Redford, le prototype du nouveau riche qui investissait à toute vapeur dans les mines et le pétrole. Le businessman le plus admiré des Brésiliens, selon une enquête qui exposait au pic de sa splendeur hein, dans le salon de sa gigantesque villa sa Lamborghini blanche. Batista, l'homme aux millions d'abonnés sur Twitter, aujourd'hui en prison, comme d'ailleurs son complice, l'ancien gouverneur, le tout aussi flambeur monsieur Cabral. Deux anciens hommes forts ici, deux hommes aujourd'hui accusés de corruption et qui auraient pendant toutes ces années allègrement vidé les caisses de l'État de Rio.
Et ces hommes, Anne, sont considérés comme responsables de la faillite de l'État de Rio. C'est ça.
Oui, et les dégâts sont considérables. Alors, l'État de Rio n'arrive plus à payer ses fonctionnaires depuis la fin des Jeux Olympiques. L'université est fermée, les services publics fonctionnent tous au minima. Rio vient de demander une troisième aide fédérale et vend en échange son entreprise de distribution d'eau. Les installations olympiques de l'été dernier hein, sont abandonnées, certaines déjà détériorées. Et Sergio Cabral est un, si ce n'est le grand responsable de cette faillite. Le groupe de Batista, lui, doit aussi pas mal d'argent à Rio. Les deux, Cabral et Batista, ont vu trop grand, emprunté bien trop, dépensé sans compter et réalisé une série de magouilles que la police découvre petit à petit. Un préjudice de 100 millions de dollars pour les finances publiques sous forme de lingots, de pierres précieuses et d'autres propriétés foncières détaillées depuis dans la presse.
La police parle d'une authentique organisation criminelle à grande échelle. Hein.
Oui, un schéma assez classique en fait, hein, où les entreprises payaient donc des pots de vin pour obtenir en échange des contrats ou des faveurs du gouverneur, comme par exemple des exemptions fiscales qui ont totalement ruiné l'État.
Et on imagine bien sûr les réactions à Rio. Est-ce que les gens font confiance à la justice?
Alors oui, c'est bien sûr assez nouveau ici. Hein, des grands noms, des hommes fortunés, autrefois des intouchables, qui sont désormais dans des cellules à 40 degrés en ce moment au minimum à Rio, le crâne rasé et avec très peu de privilèges. La justice brésilienne fonctionne à partir de délations qui viennent souvent des petites mains qui ont géré ces pots de vin, mais pas uniquement. On ne sait pas qui de Batista ou de Cabral va parler le premier et dénoncer l'autre, mais la délation est un peu le seul espoir pour eux de sortir du trou. À titre d'exemple, Marcelo Odebrecht, autre grande fortune du pays, condamné à 19 ans de prison, a dû se résoudre à la délation alors qu'il avait juré de ne rien dire. Lui et 77 anciens cadres de son entreprise, l'entreprise Odebrecht, sont en train de passer aux aveux. Il raconte à la justice ce système de paiement parallèle qui a fonctionné pendant des années dans leur entreprise pour les plus grands partis brésiliens. Une seule délation a fuité dans la presse et elle a déjà provoqué un raz-de-marée. Elle accusait le président Michel Temer et les poids lourds de son parti d'avoir perçu des pots de vin.
Michel Temer, actuel président brésilien, donc sera-t-il le prochain sur la liste ? Nous suivrons cela attentivement avec vous, Anne Vigna, en liaison avec nous depuis le Brésil.
Olivier Poujade, direction maintenant, comme tous les mercredis, Bruxelles.
On va s'intéresser ce soir, Nicolas, au statut d'attaché parlementaire européen. C'est très en vogue en ce moment. L'affaire Pénélope Fillon a-t-elle suscité la curiosité de Bruxelles ? La Commission pourrait-elle être le théâtre d'une telle histoire ? Toutes ces questions, nous allons les poser à notre correspondant Quentin Dickinson. Bonsoir Quentin.
Bonsoir Olivier, bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Alors Quentin, qu'en est-il du statut d'assistant parlementaire au niveau européen ? Il semble qu'aujourd'hui ce soit l'encadrement et la transparence qui font loi.
Eh oui, car chacun des 751 députés européens reçoit une enveloppe mensuelle de précisément 24 164 euros pour rémunérer son ou ses collaborateurs. Ceux des assistants parlementaires qui sont en poste permanent à Bruxelles et Strasbourg sont d'office soumis à un barème comportant 19 échelons qui vont de 1 800 euros à 8 250 euros mensuels, les niveaux 18 et 19 étant même mieux dotés que les députés eux-mêmes. C'est cependant leurs députés qui fixent librement leur niveau de paie en fonction notamment de leur expérience technique et politique, et ce sont les services comptables du Parlement européen qui assurent directement le virement salarial mensuel. Les intéressés acquittent l'impôt européen prélevé à la source. Les services prestés par l'assistant parlementaire sont obligatoirement en lien direct avec le travail au Parlement européen. Pas question, par exemple, de se dédoubler au siège du parti ou de participer à une campagne électorale, sauf à prendre un congé sans solde. Sans dépasser le montant de leur enveloppe, les élus peuvent employer en su un attaché parlementaire en circonscription qui relève alors du droit fiscal et du droit du travail local. N'est pas assistant parlementaire européen qui veut, le profil minimum habituel, eh bien, c'est Bac plus 6, surtout juriste, pratiquant 4 langues, ayant beaucoup voyagé en Europe. Enfin, un détail par lequel j'aurais sans doute dû commencer, il est absolument interdit au Parlement européen de faire travailler un membre de sa famille.
Et tout cela est-il bien contrôlé, Quentin ?
Bien, les procédures de vérification sont lourdes et lentes, mais elles sont méticuleuses. Cela n'empêche bien sûr pas quelques élus indélicats ou alors simplement mal informés de prendre le budget du Parlement pour une vache à lait que l'on peut traire à volonté sans qu'elle meugle. Les cas d'abus les plus fréquents relèvent en effet de l'emploi fictif d'assistants parlementaires, dont on notera que dans la majorité des cas, les auteurs des faits sont des eurodéputés eurosceptiques, voire franchement europhobes. Parmi les épinglés français, tous étant en train actuellement de rembourser, on peut citer Jean-Charles Marchiani, Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch et Marine Le Pen.
Qu'en est-il de l'affaire Pénélope Fillon, Quentin ? On imagine qu'elle a dû susciter de nombreux commentaires à Bruxelles.
Oui, et dès 10h du matin, le mercredi, le canard enchaîné est introuvable dans tout le quartier européen. Pour résumer, les milieux européens, fortement sous l'influence scandinave et anglo-saxonne, ont été interloqués par les premières révélations et par la suite stupéfaits que François Fillon n'ait pas renoncé sur le champ à sa candidature.
Les précisions toujours limpides et transparentes de notre correspondant à Bruxelles, Quentin Dickinson. Merci Quentin.
Merci à vous également, mon cher Olivier Poujade.